trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine Hennouz est à nos côtés, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine.
Bonsoir Nicolas.
Merci d'être là. Merci à Sébastien de Paris-Sorvitz d'être avec nous également. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la recherche de LBPAM et Julien Kistrebert également avec nous. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Taylor Asset Management. Le dossier politique monétaire évidemment à la une. Le marché des options estime entre 15 et 20% la probabilité que la Fed ne baisse pas ses taux cette année, Valentine. Bon, il y a eu des données importantes hein, depuis l'emploi américain, l'inflation, etc. Et puis bien sûr, la phrase de Jérôme Powell avant-hier soir, les taux resteront à leur niveau as long as needed. Comment est-ce que ça se traduit dans les marchés pour vous chez Amundi? Et puis il y a bien sûr la situation de la Fed en comparaison avec ce qu'on attend aussi du côté de la Banque Centrale Européenne.
Alors nous, on attend toujours trois hausses de taux, mais on est quand même sur une... trois baisses de taux, j'ai bien commencé.
Mais peut-être qu'un jour... On reviendra sur cette émission en se disant, elle l'avait dit la première, la Fed va monter ses taux.
Trois baisses.
Larry Summers nous dit, bon, c'est mais qui parle beaucoup et qui parle souvent, il dit... Le prochain mouvement, 15-20% de chances que ce soit effectivement un mouvement à la hausse. Non, mais pour
paroles,
expliquer le fait qu'on soit tous un peu embrouillés aussi.
On devance ma pensée. Et ce que j'allais dire, c'est qu'à court terme, on peut quand même avoir un marché qui reste extrêmement au quiche et une Fed qui reste très, très prudente sur sa capacité à baisser les taux. Et il faut voir qu'aujourd'hui, on peut quand même être surpris par la résilience de l'économie américaine. Si on regarde les projections de croissance pour l'économie américaine pour l'année 2024, ils n'ont cessé d'être revus à la hausse par les investisseurs. Et aujourd'hui, pour moi, il y a cinq facteurs importants pour expliquer cette croissance surprenante. Premier, c'est soutien budgétaire. Ce qu'on parlait, soutien budgétaire qui est inédit alors qu'on est une période au plein emploi avec des pressions inflationnistes. Le deuxième, c'est un marché de l'emploi extrêmement résilient. Et qui cette résilience s'explique quand même, je trouve, en partie par le fait qu'on a une population vieillissante. Aujourd'hui, globalement, 25% de la force de travail aux États-Unis a plus de 55 ans. Donc, il y a une force de travail importante qui quitte le marché du travail, rien que pour des questions d'âge. Et aussi, le taux de participation des plus de 55 ans qui ne remonte pas, parce qu'on a des effets de richesse qui restent très, très positifs. Et ce n'est toujours même pas compensé. On voit toujours que si on regarde l'évolution de la force de travail, il manque globalement 3 millions de personnes. Donc, ce vieillissement n'est pas compensé par la hausse sans précédent de l'immigration.
Ouais.
Donc, un marché du travail qui est résilient, des entreprises qui continuent à toujours à se très bien se tenir. Si on regarde les marges, elles ont certes un peu baissé après le Covid, mais aujourd'hui, elles se tiennent très, très bien grâce aux gains de productivité. Et aussi, on n'a jamais eu les entreprises aussi prudentes sur la dernière décennie. Si on regarde la croissance de la dette, que ce soit pour les entreprises investment grade, que ce soit pour les entreprises du AID, les entreprises, depuis le Covid, sont très, très prudentes.
En discipline.
Très disciplinées sur cost efficiency, l'efficacité des coûts. Et ça marche. On a des marges qui arrivent à tenir. Les entreprises bénéficient également d'une décennie de taux bas. Si on regarde le coût moyen de leur dette, il est extrêmement bas. Alors, il remonte un peu, évidemment, mais il reste bas. Et les hausses de taux pour les entreprises qui ont des dettes sur des maturités longues vont mettre un certain temps avant d'impacter le coût moyen de la dette. Et les entreprises ont également bénéficié du pivot dovish de la Fed fin de l'année dernière. Et depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a sur les marchés obligataires? Des montants records d'émissions. Alors ça, c'est, en fait, ce qui est très, très amusant, c'est le pivot dovish de la Fed a limité la capacité de la Fed à baisser de façon effective ses taux.
L'effet de marché a été tellement puissant
qu'au-delà
même des effets financiers, c'est un effet de soutien à la croissance qui a été généré pour l'économie américaine.
Et ce qui est très drôle, c'est qu'aux États-Unis, vu que c'est une économie qui se finance essentiellement à 80% via les marchés, il a suffi que Powell dise pas de problème, l'année prochaine, on va pouvoir commencer à vous baisser les taux pour que l'économie bénéficie immédiatement via les anticipations de baisse de taux de ces baisses de taux. Alors qu'en Europe, on est sur une économie qui se finance essentiellement via la banque, il faut que les taux baissent de façon effective pour que l'économie
se transmette.
Ouais. Alors, un soutien budgétaire, un marché de l'emploi, des entreprises où globalement les fondamentaux se tiennent à peu près, des ménages, si on regarde les bilans, les ménages sont endettés essentiellement à taux fixe maintenant sur la partie mortgage. Le coût d'intérêt effectif sur les mortgages 3,6. Taux fixe, maturité longue. Et ils ont refinancé la dette comme les entreprises pendant la période du Covid. Donc pas de sujet. Et sur l'immobilier résidentiel, alors certes, les ventes neuves baissent, Mais sur la construction, il y a encore tellement de pénuries que l'activité sur la construction tient.
Mais du coup, je reviens à votre lapsus. Est-ce qu'il faut se poser la question de savoir si à ces niveaux-là, 5,25, 5,50 de taux directeur, est-ce que la Fed est restrictive ? Est-ce qu'elle l'est suffisamment ? Et est-ce que le seul facteur temps, c'est-à-dire maintenir les taux à ces niveaux as long as needed pendant encore quelques temps, est-ce que ça suffit à rendre la Fed confortable, puisque visiblement elle ne l'est plus ?
Alors, on commence à avoir une partie de l'économie américaine qui est impactée par ces taux réels plus élevés, qui sont les ménages avec les plus faibles revenus, parce qu'on a une grande partie de leur passif qui est en taux variable, qui est près de la consommation, et les taux de les cartes de crédit sont à 20%, donc eux, ils prennent de plein fouet, subissent de plein fouet les hausses de taux. Et aussi, on voit aujourd'hui les défauts sur les cartes de crédit, les prêts auto, on tourne autour de 8. Et les entreprises les moins bien notées, les entreprises 3C.
Ah oui.
Et on voit aussi dans les enquêtes NFIB sur les petites entreprises, on voit que ça commence à souffrir un peu, que ça commence. Mais on a les hausses de taux, les taux.
Les parties réels, les plus fragiles de l'économie et du marché commencent à souffrir, les plus vulnérables.
D'accord. Donc maintenant, l'idée, c'est, mais je pense qu'il va falloir quand même rester dans une période des taux élevés plus longtemps pour que l'impact de ces taux arrive à faire baisser l'inflation. Parce qu'on a quand même une réaccélération de l'inflation depuis le début de l'année.
Ah ouais. Le momentum, effectivement, repart à la hausse. Quand Jérôme Poel, Sébastien, nous dit que les taux resteront à ces niveaux as long as needed, est-ce que ça peut se traduire en langage simple ? Notre scénario de base à la Fed est en train de basculer vers zéro baisse cette année.
Non, il a basculé. C'est-à-dire
il a basculé.
Donc pour Powell, il a basculé. Il nous l'a dit il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, que c'est lui qui s'est engagé aux baisses des taux. Et là, il dit, en fait, le scénario se passe pas exactement comme je l'avais prévu. Il n'empêche que, moi, je ne sais pas si l'inflation est en train de réaccélérer. C'est vrai qu'il y a quelques mesures, hein, il l'a dit, Powell. Sur 3 mois, 6 mois, les gens ont ressorti ces genres de mesures.
Ah, parce que lui-même nous mettait le nez dessus.
C'est lui qui nous a mis le nez dessus. Il n'empêche que la tendance, c'est quand même pour que l'inflation décélère. Évidemment, une grosse partie de cette décélération tient à ces effets temporaires. On a eu plusieurs petits chocs énergétiques. Là, les problèmes géopolitiques, heureusement, semblent s'apaiser. Le pétrole baisse. Ça sera une bonne nouvelle pour l'inflation headline, comme on dit. Donc moi je pense que la tendance c'est bien là. Le problème c'est la vitesse avec laquelle ça décélère. Et c'est vrai qu'une économie qui reste robuste pourrait, encore une fois, mettre plus de pression sur les salaires. Il n'empêche que si la situation ou l'attention sur le marché de l'emploi était aussi forte qu'au début de la sortie de pandémie, on aurait toujours un taux de chômage peut-être encore plus bas, on aurait toujours des gens sur le marché du travail qui ne quittent plus ou qui quittent très rapidement l'emploi, et c'est pas le cas. Donc il y a quand même des mesures qui montrent que les choses s'apaisent, même les salaires décélèrent par rapport à où on était. Une des raisons, c'est l'inflation. Il y a une sorte d'indexation et c'est normal. Donc je pense que on va dans la bonne direction.
On est toujours sur le bon chemin.
On est sur le bon chemin, d'accord. Mais on l'a toujours dit. Nous, on était des hawks de l'inflation depuis très longtemps. Nous, on pense que l'inflation va dans le bon sens. Il n'empêche que le fait que l'économie résiste, la lenteur va être encore plus importante. Ouais. Et donc, il faut être plus prudent. Il n'empêche que les taux réels sont élevés, puisque l'inflation décélère. Donc, nous, notre idée, c'est qu'il faut soulager un peu cette tension sur les taux. Les taux longs ont monté. Alors, évidemment, il faudra voir si l'économie réelle réagit un petit peu ou décélère, ou si l'inflation converge. Est-ce que ça sera magique ? Nous, on n'a jamais cru que c'était magique, la fameuse inflation un peu...
Immaculée.
Il n'empêche que il se peut qu'on ait ça. Sur la partie budgétaire, heureusement, les choses se calment un peu. Le déficit va être presque un petit peu moins important que l'année dernière, mais autour de 7%. Ouais. Il était près de 8%, ouais. Un peu moins l'année dernière. Donc, ça va être moins puissant que l'année dernière. L'année dernière, on a une stimulation budgétaire qui a été extrêmement puissante aux États-Unis, alors que nous, on n'a rien eu en Europe. C'est une partie de l'exceptionnalisme américain vient de là. Donc, nous, on croit à cette tendance. Mais est-ce que pour la Fed, qui a besoin d'être confiante, comme nous dit Powell, pour que la tendance aille vers 2%, ça va prendre plus de temps. Il n'empêche, hein, il ne faut pas oublier, pour la Fed, dans son modèle, ou la façon, ou sa fonction de réaction, ouais. comme on dit, les marchés, c'est important. Ouais. Et décevoir de trop les marchés est un problème pour la croissance américaine. Donc, un geste qui irait dans le bon sens, moi, ça me semble naturel de la part de la Fed.
Elle peut trouver la justification encore qui lui permettrait d'initier au moins un mouvement cours des prochains mois.
Si la décélération de l'inflation se poursuit même de façon au compte-gouttes, ouais. Je pense
chaotique,
que
oui.
chaotique, elle pourrait ajuster sa D'accord. politique de 25 points de base. S'il le fait en juillet et attendre septembre pour en faire une autre, il n'y aura que deux. Et il faut se rappeler, hein, il y a quelques mois, on était à 6-7 oui, oui, oui. Par le marché. Donc oui, oui, oui. Ça va vite, hein, ça oui. va très vite. Ça peut changer très vite. Il n'empêche que c'est vrai, on est au niveau mondial dans une reprise notamment du secteur industriel, mais ce oui. qui est positif. Oui. On ne le voit pas dans les prix des biens, ce qui est plutôt quelque chose de positif. Ça va commencer à se voir et les choses vont se stabiliser, donc ça sera aussi un problème pour la Fed.
Non, il n'y a plus de contribution des biens à la désinflation aujourd'hui.
Pas aussi forte qu'avant,
bah
parce qu'on a nettoyé, il n'y a plus de goulot d'étranglement aussi fort. Certes, il y a les problèmes en mer rouge, dont rouge et noir. Ouais. Et donc, ces choses-là semblent se soulager un peu aussi. Donc, non, moi je crois que la désinflation est bien entamée, D'accord. mais elle va prendre beaucoup plus de temps. Nous, on a encore une inflation à plus de 2,5% en 2025. Donc, ça va être lent. Ça va être lent. Et ça ne veut pas dire que la politique monétaire doit rester comme ça, parce que là, ça va faire très mal pour la croissance. Mais la fenêtre, elle est un peu étroite. Peut-être qu'elle va être fermée et que cette année, il n'y aura rien de la part de la Fed. Je pense que c'est le risque qui n'existait pas pour les marchés il n'y a pas longtemps. Et c'est une des éléments qui, quand même, fait souffrir un peu le marché.
Oui.
L'ajustement qu'on a
j'imagine.
Vu... Rappelez-vous, on n'a pas vu des ajustements de 2% depuis je ne sais pas combien.
Oui.
Là, on a fait 4 sur le...
Depuis au moins 5 mois, oui. Voilà. Non, mais le fait que... Pour plusieurs raisons, et commencer par des raisons économiques, macroéconomiques, la Fed soit obligée de retarder encore ses baisses de taux assurantielles. C'est comme ça qu'elles étaient présentées. Est-ce que ça maintient quand même l'idée que l'économie américaine peut atterrir doucement, si elle doit atterrir? Ou est-ce qu'au fur et à mesure qu'on reporte ces baisses de taux, est-ce que ça recrée un risque de lending un peu plus difficile?
C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça se fait que l'économie continue à croître, à ce que tout le monde pense, et au-dessus du potentiel. La croissance américaine était considérée...
Bah on a eu toute une série d'arguments hyper solides.
Et elle est toujours... et on l'a depuis l'année dernière. Et on vit encore là-dessus, on a eu une impulsion budgétaire extrêmement forte. Je pense qu'elle va commencer... le facteur
d'accord.
essentiel.
D'accord.
Le reste...
D'accord.
C'est, je pense, beaucoup moins important. Et cette dynamique, elle peut être porteuse. Et on va voir si l'inflation s'arrête de décélérer. Voire, on a une accélération sur un point, les services. La Fed ne peut pas baisser ses taux.
Bon, comment vous regardez la situation, et notamment du point de vue des marchés, des actifs risqués, Julien, est-ce que l'ambiance est en train de tourner depuis quelques semaines maintenant, sachant qu'au premier trimestre... Les taux longs pouvaient remonter, mais c'était toujours vécu comme une bonne nouvelle pour les marchés actions, notamment parce que derrière la remontée des taux longs, il y avait justement plus de croissance. Hein. On révisait à la hausse la croissance américaine de 1 à 2, quasiment, grosso modo, pour le consensus. Là, est-ce que l'histoire est en train de changer avec des taux longs à 4,50, 60, 70 ?
Non, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de gros changements. Le marché reste focalisé sur, effectivement, la croissance. Hein, on l'a bien vu. Même si on a une remontée des taux, le point bas qu'on a eu au mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, les valeurs de croissance qui, normalement, sont les plus sensibles à la remontée du taux d'actualisation, c'est celles qui ont le plus performé parce que c'est celles qui ont le plus de croissance. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de vrai changement, en tout cas sur la partie des marchés actions, évidemment.
Ouais.
Il n'y a pas de souci particulier. D'ailleurs, on en reparlera, mais on voit qu'on reparle d'IPO même en Europe, enfin d'introduction en bourse. Donc on voit qu'il y a de l'appétence. Les marchés ont certes corrigé un petit peu, mais ça reste quand même, quand même sur des niveaux qui sont tout à fait élevés. Et si on regarde la prime de risque du marché actions, sur l'Europe, il n'y a pas de choses anormales, mais sur les États-Unis, bon, on est sur des niveaux quand même qui nous rappellent il y a une vingtaine d'années. Alors, certes, ce n'est pas les mêmes sociétés, il n'y a pas les mêmes niveaux de résultats, etc. Mais la prime de risque action, elle a quasiment disparu aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Oui.
Sur le marché américain. Oui. Donc.
L'obligataire yield plus que les actions aux États-Unis aujourd'hui.
Exactement. Et c'est cet effet croissance qui joue, parce que de toute façon, il n'y a que deux choses qui peuvent l'expliquer. Soit on pense que les taux vont baisser trop vite, bon, on est tous d'accord pour dire que ça va être compliqué. Et donc, la seule solution, c'est qu'il y a une croissance qui est très forte. Et ça se voit d'ailleurs dans les attentes de résultats sur le premier trimestre. L'essentiel de la croissance d'IPS aux États-Unis sont les grandes valeurs.
Ouais.
Sur certains secteurs, on est à plus 20 sur le secteur des technologies de l'information. Si on retire Nvidia, on n'est plus qu'à plus 9.
Ah oui.
Donc c'est des effets qui sont colossaux,
massifs.
Donc il y a des marchés qui sont vraiment distordus. Ça se voit aussi d'ailleurs dans les performances. Hein. Si vous avez un S&P 500 ou un S&P 500 Equal Weight, etc., les performances sont plus du tout les mêmes. Donc globalement, on ne voit pas de bulle sur le marché action. Sur le marché obligataire, je dirais que ils sont encore plus spécialistes que moi sur le sujet, tous les deux, mais globalement, nous, on est plutôt à se dire que sur ces niveaux-là, commencer à reprendre, ne serait-ce que pour des raisons de portage. Bon, voilà, c'est pas idiot. On ne croit pas à une hausse des taux, pour le coup. On ne croit pas non plus aux trois baisses. Si on a une cette année, je pense que ce sera bien. Parce qu'en plus, il va y avoir l'effet électoral. On n'en a pas parlé, mais selon la personne qui est élue, si c'est Donald Trump, il peut remettre une couche.
Bien sûr.
Il veut baisser le taux d'imposition des sociétés. Il veut éventuellement refaire plus de dépenses budgétaires.
Bon, refermer les vannes de l'immigration.
Le protectionnisme, donc les salaires, le protectionnisme. Quand on regarde aussi l'utilisation des enveloppes sur la partie budgétaire, on est loin d'avoir tout vu, quand même, sur les différents plans de relance. Donc tout ça fait que il n'y a pas vraiment de raison de baisser les taux, si ce n'est des questions de crédibilité politique ou que sais-je. La situation européenne, évidemment, est un peu différente.
Ouais. Mais c'est intéressant le point quand même. Vous dites là, pour les marchés actions, tant que la Fed est en capacité quand même de délivrer à un moment une recalibration de sa politique monétaire. L'inflation soit à 2,5, 3, c'est pas un problème.
L'inquiétude principale, c'était... alors évidemment, il y a le coût de refinancement et la sous-performance des small limit cap qui sont plus sensibles à ça. Ça, c'est clair.
On l'a vu la semaine dernière. Hein, dès que c'est un peu trop chaud sur l'économie américaine, donc moins de baisse de taux, boum.
C'est compliqué. Donc ça, cette partie de la cote, oui. Par contre, sur les large cap, finalement, tant que et on le voit d'ailleurs sur le niveau des marges, globalement, les marges tiennent bien, même dans un environnement avec beaucoup d'inflation. Il y a eu beaucoup de pricing power. Et c'est ça aussi qui avait surpris... on recule un petit peu, mais ça qui avait surpris, personne ne s'attendait à ce que les sociétés soient capables d'encaisser des tels niveaux d'inflation. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé.
Ouais. Avec peut-être même le retour des volumes, je ne sais pas, une publication comme Danone aujourd'hui nous signale qu'il y a des effets prix, toujours, bien sûr, les marques sont fortes. Mais il y a aussi du volume qui revient maintenant.
Bon, ça, faut quand même pondérer un petit peu ça, hein, parce que Danone, c'est un cas un peu particulier. D'accord. Mais on voit que
on ne peut pas généraliser à partir
non,
de Danone.
Non, regardez, tu voyez, on va prendre une blue chip comme Nestlé, qui a toujours été adorée dans les portefeuilles. Vous voyez, sa performance sur les derniers trimestres, c'est quand même très, très compliqué.
Ouais.
Là-dessus, un peu plus de modération. Mais globalement, si vous êtes très international, vous avez un bilan sain, tout va bien.
Ah ouais. Bon. Effectivement, pour l'instant, je ne sais même pas si on a baissé de 5% sur les grands indices. À peine, hein, c'est 3 à 4% de baisse peut-être depuis le début du mois. Valentine, bien sûr, puis je veux bien qu'on aborde quand même la question BCE versus Fed. Si la Fed en est à ne pouvoir délivrer qu'une ou deux baisses de taux, qu'est-ce qui se passe pour la BCE, ou voire zéro pour la Fed?
Je pense que ce qui était intéressant de voir, c'est que les hausses de taux, le retour à des taux élevés, a matérialisé les déséquilibres qui ont été créés par une décennie de taux bas. Et ça, c'est ce qu'on voit maintenant. Les large caps versus les small caps, les entreprises qui ont accès au marché versus les entreprises qui n'ont pas accès au marché, les ménages qui ont accès à du crédit immobilier, les ménages aisés qui bénéficient de l'effet richesse positif versus les ménages qui sont endettés juste sur du crédit conso. Donc on a vraiment aujourd'hui des déséquilibres, une accélération entre les déséquilibres. Et ça, c'est vraiment le résultat de cette décennie de taux bas.
C'est le miroir, effectivement, de cette décennie de taux zéro. Quoi.
Vraiment garder à l'esprit que toutes ces questions aujourd'hui qu'on se pose et pourquoi est-ce que l'impact n'est pas aussi fort, on sort d'une décennie de taux ultra bas où il y a eu énormément et encore énormément de liquidités. Et ça, c'est encore à prendre en compte. Donc les taux aujourd'hui impactent l'économie. Je reste persuadée de ça. Hein. Je ne pense pas que l'impact des taux soit derrière nous, comme sur certains scénarios sur le marché. Mais par contre, le décalage avec lequel les taux impactent l'économie est beaucoup plus long que ce à quoi on s'attendait.
Bon. Qu'en est-il du côté de la Banque Centrale Européenne? Je crois qu'elle a pris acte qu'il y a peu de chances que la Fed puisse baisser peut-être ses taux en juin. Tout est encore ouvert. Hein. Personne n'a été définitif là-dessus à ce stade. Mais qu'est-ce qu'il advient de la Banque Centrale Européenne si elle doit être solo pour quelques mois?
La BCE, la BOE.
Oui, la BCE, bien sûr, mais toutes
elle
les autres.
Elle n'est pas seule dans ce bateau.
Toutes les autres.
Qui vont regarder la Fed.
Alors les Suisses sont déjà partis, par exemple.
Ouais.
Les Suisses sont déjà partis.
Qui vont devoir faire, on va devoir baisser nos taux, alors que la Fed ne les baisse pas.
Ouais.
Quid de la devise? Donc oui, ça va être très, très challenging pour la BCE. Ce qui est amusant de voir, c'est que l'économie européenne est quand même dans une dynamique qui est vraiment différente de celle de l'économie américaine, même si les surprises économiques sont positives. On n'a absolument pas les mêmes révisions à la hausse de la croissance européenne.
Non, par rapport on a passé un point bas, mais on n'est pas en phase de décollage. Quoi.
On est surpris à la hausse, le secteur des services tient bien, l'économie européenne bénéficie des revenus réels positifs, d'un secteur des services qui tient, d'une consommation qui tient. Mais la différence, c'est l'impact des taux sur l'activité du crédit est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'en Europe, comme je l'avais dit précédemment, on dépend du crédit bancaire. 80% de l'activité de crédit se fait via les banques. Et on voit que contrairement aux États-Unis, on a toujours une expansion du crédit. En Europe, on a une contraction du crédit. Et si on regarde la dernière enquête...
Parce qu'il n'y a pas de demande, hein. Aussi parce qu'il n'y a pas de demande.
Il n'y a pas de demande, mais il n'y a pas de demande. Pourquoi? Parce que
les conditions, dans le dernier Bank Lending Survey, je crois, les conditions d'octroi se sont un peu détendues, mais ça ne relance pas pour autant la distribution. Hein.
Alors moi, j'aime bien qu'on dise qu'il n'y a pas de demande, mais quand on regarde le niveau des taux, on peut comprendre pourquoi il n'y a pas de demande aussi.
Ouais.
Donc il y a des taux quand même, des coûts de financement qui restent extrêmement élevés. Et on voit que la demande a continué de se contracter. Donc, et là, je pense que c'est pour ça que la BCE est très motivée pour...
Et alors, quelle marge de manœuvre ils ont s'ils doivent compter sans la Fed au moins pour quelques temps?
Nous, on reste toujours dans un scénario où la Fed pourrait baisser ses taux. Donc. Mais si on bascule dans ce scénario pas de baisse de taux, je pense qu'on va devoir considérablement revoir à la baisse le nombre de baisses.
Forcément, il y a un impact.
Bah oui, sur le change. Et surtout si on a des tensions sur le prix de l'énergie avec le risque géopolitique. Donc il y a des tensions qui peuvent être sur l'inflation importée. Donc ça reste un risque. Et après, si moins de baisse de taux, ça veut dire plus de risques sur la croissance l'année prochaine.
Quelle marge de manœuvre pour la BCE si la Fed est encore un peu plus sur la retenue dans les prochains mois?
Moi, je pense qu'elle a pas mal de marge de manœuvre. Donc, quand je dis pas mal, c'est effectivement par la devise. On voit bien, dès qu'il y a eu une Fed qui nous a dit qu'elle peut-être, elle baissait même pas les taux ou les baissait de façon plus graduelle, le change est parti très vite. Hein, le dollar est pas à son plus haut. Mais avec le yen, il y a...
Oh, bah oui, avec pas mal de devises,
mais pas avec l'euro. Non, mais donc la BCE va prendre en compte. Mais moi, je pense toujours que la BCE va baisser ses taux en juin. D'abord, parce que c'est plus annoncé même que ce que la Fed a dit de ne pas les baisser.
C'est dit explicitement par Villeroy aujourd'hui, une fois encore.
Bon, lui,
le 6 juin, on baisse. Que... Et moi, il dit, je suis ouvert à une baisse chaque meeting après le 6 juin.
Oui, lui, il a été il est assez agressif là-dessus. C'est pas le seul, mais il est vraiment dans le camp des colombes, comme on dit. Mais je pense que le raisonnement vient justement de ce point sur l'état des deux économies. C'est-à-dire que nous, ça fait un an et demi qu'on stagne. Et donc, il y a, comme le disait Lane, nous, on a quand même souffert. C'est-à-dire l'Europe a souffert dans cet ajustement. Il y a beaucoup de catégories qui ont souffert. Nos entreprises ont bénéficié de la croissance européenne. Les entreprises qui se sont très bien comportées pendant cette période, c'est celles qui exportaient ailleurs. Et non pas celles qui vendaient en Europe, ou certaines qui ont maintenu leur marge. Beaucoup ont réussi, notamment les grosses, à augmenter leur marge. Donc, cette douleur, je pense qu'on le voit dans cette désinflation, reste une viscosité malheureuse et qui fait mal dans les services et qui est liée sur ces pressions salariales qui restent ici et là. Mais je pense que la tendance est bonne. Et encore une fois, vu ce qui se passe au niveau du crédit, je pense que la BCE n'était pas contente de voir le dernier rapport, même si les anticipations étaient pour une amélioration, notamment de la demande, plutôt des côtés des ménages que des entreprises, justement. Et la BCE sait que si on se... Même si elle dit que les data dependent...
Oui,
on dit,
si elle est un peu forward-looking,
si elle regarde un peu loin, il faut soulager un peu cet étau de la politique monétaire. Bon. Je pense que... Bon. Et juin, c'est très bien. En revanche, 3 au maximum, si on n'a que 2 aux États-Unis, voire si on n'a pas, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. D'accord. Parce que là...
La limite est là.
Oui, parce que là, gérer le change, ou le tumulte qu'amènerait le change, pour l'instant, les Japonais font rien. On était à 154, je crois, contre le...
Oui.
Et donc, il faut quand même que... Les Japonais ont beaucoup parlé, mais ils n'ont rien fait. Et donc, il faut être prudent. Et au niveau du marché action, je pense que là, on est en convalescence. Moi, je continue à penser qu'on aura une correction à un certain moment, parce qu'on a quand même anticipé trop de belles choses. Alors, il y a beaucoup de l'IA, etc. Je pense que dans les small caps... Et si la BCE fait les choses, on va avoir des gens qui vont réussir à avoir un peu plus de demandes, à corriger. Ils se sont quand même ajustés au cours de la période. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Il y a quand même une logique de retour à la moyenne, vous dites, pour des segments de marché qui...
Si la BCE baisse et soulage un peu l'accès un peu au crédit, et si les données, les quelques petites données qu'on a sur la demande européenne pour des small caps qui sont moins internationales et qui ont besoin de la demande ici, je pense que ça peut mieux se passer, mais il faut être un bon stock picker pour choisir qui on prend dans son panier pour pouvoir performer.
L'intérêt, c'est que la cote small et mid cap en Europe, elle a aussi des boîtes de grande qualité, peut-être plus d'ailleurs que sur un Russell 2000 américain, profonde, liquide, bref, c'est peut-être une des plus belles cotes au monde, small et mid en Europe. Baisse de taux de la BCE, si, partons de cette hypothèse, oui, c'est typiquement le genre de segment de marché qui en profitera, Julien.
Oui, en toute logique, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, si on reprend un peu de croissance en Europe, des coûts de financement qui baissent un peu, c'est assez évident. Après, il y a aussi je sors un peu de la logique économique et des logiques quand même techniques.
Ah.
C'est que tout le monde en fait des ETF, tout le monde achète les mêmes boîtes, les très grosses, parce que c'est liquide, c'est facile, je rentre, je sors, etc. C'est les boîtes de méga trend. Et donc, il y a quand même ce phénomène-là qui est extrêmement fort. Tous les sujets du gouvernement, comment est-ce qu'on fait pour financer les plus petites valeurs, etc. Retrouver de l'intérêt, les levées de boucliers aussi des gérants.
On revient sur MiFID 2.
Oui,
c'est parce si que on veut des idées, sujets, s'ils veulent des idées, on peut en donner.
Et quelque chose, c'est sûr qu'on devait compléter un mandat de gestion avec toute la documentation. Bon, il faut avoir le cœur bien accroché.
Il y en a plein, moi j'en entends plein des idées pour raviver le marché.
C'est sûr. Mais globalement, oui.
Non, mais vous dites, il y a quand même des facteurs techniques et même réglementaires. Qui ont quand même cassé quelque chose.
Et Value for Money aussi, qui a rajouté... Enfin, on sort du sujet.
Oui, mais non.
Mais globalement, la gestion active, en plus, globalement, elle a plutôt sous-performé parce qu'elle est plus mid en moyenne que les fonds en très large cap. Donc, du coup, elle se fait sortir des référencements.
Cercle vicieux.
Les fonds de fonds, ils disent, il faut que je baisse mes frais, donc j'ai pas 50 solutions, il faut que je mette plus d'ETF dans mon fonds. Et en fait, il y a plein de facteurs techniques
très intéressants
à décrypter, qui rajoutent des couches et qui font que globalement aller sur les small et mid c'est compliqué, ce qui n'empêche pas que les boîtes sont très belles. Mais et après on pourrait se dire le catalyseur serait de voir des VC sortir les sociétés de la cote. Ce serait ça ce que tout le monde attendrait comme catalyseur. Bon, ils ont un problème aussi de sortie même sur certains de leurs fonds. Donc pour l'instant, c'est pas très clair. On a même CVC qui veut s'introduire en bourse. Donc bon, voilà, c'est un peu le paradoxe.
Grande firme de private equity britannique.
Exactement. Donc globalement, oui, sur l'idée des small et mid, mais je pense que les investisseurs vont avoir quand même du mal à y aller. Après, il y aura toujours les effets, comme cette année, la fin d'année, les phénomènes de flux. Il y a
un
flux en fin d'année, on réalloue nos portefeuilles. Ça sous-performait, donc on en remet un peu. Comme c'est pas liquide, tout de suite, ça remonte. Après il y a d'autres segments comme l'immobilier coté aussi qui serait évidemment un gros bénéficiaire, alors qui a bien remonté en fin d'année quand ça s'est un peu emballé sur les taux, qui a recorrigé un petit peu, et c'est vrai que il y a des décotes sur ANR qui sont quand même faut choisir bien sûr le segment, etc. Mais il y a des cotes sur ANR qui sont extrêmement importantes, et c'est vrai que si on compare même avec les baisses qu'on a vues sur les SCPI, même si ça fait crier certains investisseurs, on a des décotes quand même qui sont très
bien plus larges, bien sûr
souvent pour des
bien
de meilleure qualité
bien
en plus. Ça peut être des segments qui seront bénéficiaires, et en plus, comme on disait, des segments assez étroits en termes de liquidité.
Puisqu'on parlait des marchés de capitaux, donc il y a quand même un succès aujourd'hui, c'est l'arrivée de Planisware sur le marché d'Euronext à Paris. Julien, j'ai du mal à imaginer qu'une hirondelle fasse tout le printemps. Mais il faut quand même se réjouir que plus de 2 ans après OVH, 2 ans après Believe, on est quand même une nouvelle boîte de tech qui...
Believe qui a quitté la cote en plus.
Ben oui, ouais. Non mais... Bon. Alors non mais, très bon point. Est-ce que vous retenez Planisware ou est-ce que vous retenez Believe qui, 2 ans après son introduction en bourse, sort de la cote 20% moins cher qu'elle n'y était entrée, Julien?
Oui, bon, après, c'est...
Ah, bah, c'est vous qui le mettez sur la table. Moi, j'adore le sujet, donc...
Believe, c'était un modèle économique avec des avantages et des inconvénients, mais pas forcément extrêmement robuste.
En tout cas, le plan de marche a été délivré, quand même, sur les 2 ans.
Mais bon, quand on compare avec les gros acteurs, par rapport
à un niveau... Ok.
Bon, moi, en tout cas, j'étais...
Pas convaincu, d'accord.
Pas convaincu du dossier.
Non, mais dès le départ, je crois qu'il y a eu un quiproquo sur ce qu'ils faisaient, le modèle, etc.
Exactement.
Peut-être que ça a été mal communiqué, peut-être que les investisseurs ont mal compris, peut-être que c'est les deux, etc.
Bon, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une valeur tech.
La bonne nouvelle, c'est Planisware.
On a une valeur tech qui s'introduit. Alors, ils ont tapé le bas de fourchette qu'ils avaient annoncé au mois d'octobre. Ça rebondit. La valorisation est bonne. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va enfin arriver à attirer quelques valeurs technologiques sur les bourses européennes, notamment à Paris? Il faut l'espérer, parce que c'est quand même un de nos gros sujets. Parce que, évidemment, il y a le luxe, mais ce serait bien qu'il y ait un peu d'autres secteurs sur lesquels on puisse, en tout cas, avoir créé.
L'innovation au sens large, j'ai envie de dire.
Oui.
Je ne veux pas résumer ça à l'innovation, quoi.
Bah d'ailleurs, l'autre...
Si ça doit servir à quelque chose, la bourse, c'est financer l'innovation.
D'ailleurs, l'autre introduction en bourse qui n'a pas marché, c'est la distribution automobile, Astara, le groupe espagnol.
Qui a coupé le projet, d'ailleurs, c'est ça.
Le projet complètement. Voilà, bon, Douglas, qui est revenu aussi sur du traditionnel, vente de parfums. Ouais. Bon,
ça n'a pas marché.
C'est compliqué. Bon, c'est des gens qui étaient en bourse, qui étaient sortis, qui sont revenus. Voilà, donc je pense que, les gens ont... De toute façon, déjà, les investisseurs veulent des valeurs avec vraiment... Alors, même s'ils ont un peu de croissance, je suis un peu excessif, mais ils veulent des valeurs de croissance structurelle. Et on a besoin d'avoir de plus en plus ce genre de valeurs. Et je pense que, globalement, les investisseurs européens sont très demandeurs, puisque vous regardez les portefeuilles, tout le monde a beaucoup d'ASML, notamment. Enfin, dans tous les portefeuilles, quasiment, c'est la première ligne. Alors, c'est un des plus gros poids de l'indice, mais aussi parce qu'on manque de profondeur pour des valeurs technologiques, tout simplement. Ouais. Et donc, tout le monde achète... qu'il y a quelque chose de, à peu près, en tout cas, avec une bonne visibilité et assez gros sur la tech, tout le monde y va. Ouais.
Est-ce qu'il faut que les particuliers participent, puissent participer à ces opérations, ou est-ce que, ce qu'on m'a expliqué aussi, de mettre les particuliers de côté au moment de l'opération, ça permet aussi parfois d'aller plus vite sur l'opération, de moins traîner, de moins être obligé de rediscuter ou renégocier du prix, et donc... Typiquement, Planisware s'est fait visiblement sans les particuliers, je crois, Julien.
Oui. Bah, le sujet de savoir est-ce qu'on a envie qu'il y ait plus d'investisseurs particuliers ou pas, ça, c'est un sujet, je n'ai pas la réponse personnellement, mais en tout cas, soit ils doivent passer par...
Mais est-ce qu'ils doivent être au primaire ou est-ce qu'il faut qu'on les attende à un autre moment peut-être de la vie de l'entreprise
en
bourse?
Globalement...
ça implique des contraintes aussi. Quand on veut avoir des particuliers dans le primaire, dans l'opération primaire, ça génère des contraintes qui font que l'opération est peut-être moins... solide que s'il n'y avait pas de particulier.
Bah, globalement, le primaire, c'est quand même un exercice compliqué, même pour des investisseurs institutionnels. Par expérience, si en général vous êtes très bien servi, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
C'est pas bon signe.
et donc, du coup, dire aux particuliers, venez plutôt sur le secondaire, à la limite, je trouve que c'est peut-être plus raisonnable. Parce que très souvent, le particulier, il a tendance dans son portefeuille à... pas beaucoup diversifié.
Ce qui a dégoûté beaucoup de particuliers, c'est justement sur des opérations au primaire où ils étaient appâtés et où ils se sont retrouvés effectivement le bec dans l'eau.
Je dirais que c'est souvent le discours d'ailleurs qu'on a avec des clients privés quand on en rencontre. C'est bien leur expliquer qu'on gère du risque et pas seulement de la performance. Et eux, souvent, quand ils gèrent leur portefeuille, ils sont plus en mode « je veux faire la performance possible ». Quitte à ce qu'il puisse se passer des petits accidents.
Ouais. Intéressante parenthèse sur la manière dont les marchés fonctionnent. Bon, petit tour sur ce qui vous intéresse en matière d'investissement aujourd'hui dans la sphère obligataire. Valentine, est-ce que vous préférez, du US Treasuries ou du Govies européen dans la sphère souveraine? Et puis, sur les marchés de crédit, ça s'est un peu réécarté. Est-ce que immédiatement ça devient des points d'entrée? C'est un buy the dip? Ou est-ce qu'on laisse courir un peu?
Non, c'est pas un point d'entrée.
D'accord.
Mais néanmoins, sur le crédit, je resterai constructive, en particulier sur tous les noms qui sont bien notés. parce que les fondamentaux sont bons, hein, que ce soit les fondamentaux des boîtes investment grade US ou européennes. Après, si on dort sur l'US investment grade, on va me dire les spreads sont vraiment tendus, sont chers. Oui, mais si on regarde aujourd'hui les montants, les encours qu'il y a sur le marché monétaire, Citrion, et que si la Fed commence à baisser ses taux, on va continuer, c'est ce qu'on observe depuis le début de l'année, d'avoir des flux positifs sur la classe d'actifs. Et on a des facteurs techniques aujourd'hui sur les marchés du crédit pour les noms qui sont bien notés, que ce soit investment grade, mais aussi les 2B, qui sont très très bons. Après,
et y a pas besoin d'aller, on n'est pas obligé d'aller dégrader la qualité justement. Il n'y a pas beaucoup plus à gagner
Il y a toujours plus à gagner en prenant plus de risques.
Oui, c'est la hiérarchie logique, mais est-ce que c'est un risque qui en vaut la chandelle?
Comme ça a été très très bien expliqué juste avant, nous ne gérons pas que de la perte, nous gérons aussi du risque. Ouais. Et voilà, donc ça c'est là tout était dit. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, si on rentre, il y a quand même un risque. Après, on a évoqué de rentrer dans un environnement où les taux restent plus élevés plus longtemps. On voit que ce risque va forcément peser de façon assez importante
sur les parties les plus vulnérables.
Et si aujourd'hui, on regarde les défauts sur le high yield, les défauts restent concentrés sur les 3C. Il n'y a très peu de défauts pour l'instant sur le simple B.
Ça ne se diffuse pas.
Ça ne se diffuse pas. Pour l'instant, c'est vraiment une histoire de petites et moyennes entreprises, d'entreprises avec des niveaux d'endettement élevés et surtout sur des maturités courte, mais par contre, si on reste dans un environnement où les taux vont rester plus haut plus longtemps, évidemment que le stress va se diffuser. Ouais. Mais pour l'instant, je dirais l'investment grade, que l'on soit dans ce scénario où on peut peut-être avoir un peu plus de volatilité, certes, mais qu'on soit dans un scénario où les taux plus élevés plus longtemps, aujourd'hui, on a quand même des rendements qui sont... Alors, en spread, c'est cher, mais en rendement, c'est intéressant, et les flux et les facteurs techniques sont très très positifs.
Et sur du souverain, ça vaut le coup d'aller, chercher de la duration sur la courbe américaine quand on revoit les taux longs 10 ans au-delà de 4,50, 4,60. Il peut y avoir de l'appétit. Il y a des clients qui peuvent avoir de l'intérêt pour verrouiller, comme on dit, du rendement à ces niveaux-là. Ou est-ce que c'est encore très volatile, trop volatile? Est-ce que ça effraie encore la clientèle?
Alors, par exemple, si on veut se couvrir contre un risque de récession dans un portefeuille.
Pour une couverture, alors, d'accord.
Une couverture, je trouve que c'est.
D'accord.
Après. Je dirais aujourd'hui, c'est le moment peut-être de passer en termes de duration, d'être plutôt neutre et de commencer à réfléchir. Mais je dirais que c'est peut-être en façon tactique, c'est peut-être un tout petit peu trop tôt. Je m'attends quand même qu'au cours des prochaines semaines, on
le marché va rester hawk, c'est ça.
On va quand même rester sur un Fed qui va rester très pif. Par contre, je pense que je partage le point de vue de cette table. Je suis beaucoup plus confiante sur la trajectoire de l'inflation sur la zone euro et sur le fait que la BCE va commencer à baisser ses taux au mois.
Et donc là, c'est pro-duration alors.
Exactement. On peut commencer à être. Bon, je suis beaucoup plus confiante sur une position duration. Sur le marché européen.
Sébastien. Nous, on est très diversifiés dans ce monde compliqué. On parle de géopolitique, on parle de la direction que prend l'inflation et surtout les banques centrales. Mais moi, je trouve que les taux à ce niveau-là, au risque de se tromper, pour les souverains, sont intéressants, en tous les cas. C'est loquer ces niveaux de taux sur des portefeuilles datés, etc. Moi, je trouve que c'est intéressant. On peut se tromper, ça peut aller un peu plus haut. Mais
même pour un investisseur qui est sans contrainte de ce point de vue-là.
Et même le marché pense la même chose. Disons, le taux terminal, disons, à 2-3 ans, c'est quoi? C'est 3,70, beaucoup plus élevé que ce que dit la Fed à 2,60, et là, elle. Je trouve ça intéressant. Donc, nous, on est très diversifiés sur tous les segments. Sur le crédit, on reste, ça a été notre amour depuis le début, d'être sur les banques et aller chercher...
D'être bancaire.
Dans la partie risquée, et aussi sur l'investissement graine, et ça a très bien marché, et il y a des segments intéressants. Donc pareil, on va chercher quand même un peu de risque sur du triple C ou des choses, ou du C tout court, et qui est dégradé, mais parce que on pense que, justement, le modèle, il tient la route et on peut aller chercher un peu de yield. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, vu l'incertitude, il vaut mieux être vraiment diversifié. Je pense que celui qui parie que ça va être toujours bien et que l'IA va tous nous porter vers l'avenir en chantant, je pense que c'est une erreur. Il vaut mieux être bien diversifié. Et on voit des poches dans lesquelles on peut être et essayer de chercher de la performance avec un risque toujours maîtrisé.
Bon, qu'est-ce qui vous intéresse là en matière de philosophie aujourd'hui, d'investissement, de gestion des portefeuilles chez Taylor?
Ouais, bah, très rapidement, sur la partie action, évidemment, puisque au moins sur cette partie-là, on est tous d'accord qu'on est assez confiants sur la croissance, donc action américaine, qui nous semble évidemment assez porteuse. En cas d'élection de Donald Trump et de protectionnisme, en plus, on se dit que c'est peut-être pas idiot. Si jamais il baisse les impôts, bah, ce sera la cerise sur le gâteau.
Repeat de 2016, quoi.
Exactement. Donc ça, là-dessus, on a une conviction.
Plus le dollar qui peut aider. Plus.
Donc là-dessus, on a une conviction assez forte. Et par contre, sur les taux, effectivement, oui, la logique de baisse des taux sur la partie européenne est plus évidente. Mais on se dit que c'est pas idiot non plus d'avoir sur la partie US pour aussi avoir de l'expo dollar au cas où la BCE se retrouverait obligée de baisser ses taux un peu plus rapidement. Donc sur ces niveaux-là, on commence à en embarquer pour le portage.
Pour le portefeuille, on n'y croit pas forcément, mais en tout cas
pour l'effet devise. Ouais. Donc action, parce que là au moins ce sujet-là d'inflation. C'est pas un vrai problème pour l'instant.
Non, 3% d'inflation. Entre 2 et 4% d'inflation,
c'est parfait.
C'était maximal pour la valorisation des actions.
Tout à fait.
Le sweet spot.
Oui, vivent de ça aussi, les boîtes.
Non, c'est. Oui.
C'est l'un des meilleurs actifs pour se protéger de l'inflation.
Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valentine Hennouz, Amundi Institute, Sébastien Paris-Sorvitz, LBPM, Julien Kistrobert, Taylor Asset Management.